Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30.
Avec Christophe Paco.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce vendredi 2 avril, début d'un long week-end de Pâques. Et avant d'en profiter, une interrogation pour beaucoup de familles. Tu peux ou tu peux pas faire garder tes enfants pendant 3 semaines par ta nounou? Après avoir annoncé, en plus de la fermeture des crèches, l'interdiction d'exercer pour les assistantes maternelles durant ces 3 semaines, le rétropédalage de la nuit du gouvernement qui devrait, dans quelques minutes, décider finalement de les autoriser à travailler. Ou pas. Interrogation légitime des familles. Nounou opérationnel ou pas, notre invitée Véronique Delettre, secrétaire nationale Force ouvrière pour le secteur des emplois de la famille, sera avec nous dans un instant pour nous éclairer. Week-end de tolérance sur les routes pour ces 3 jours de congé à venir, mais pas de relâchement en ce qui concerne nos traditionnels gestes barrières au moment où Santé publique France publie les tout derniers chiffres, pour le moins peu rassurants, chiffres complets de la semaine dernière. On fera le point avec Odile Pouget, notre spécialiste santé RTL. La météo, bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Vous l'avez constaté, ça s'est rafraîchi depuis ce matin.
Oui, ça pique un peu. Hein. Cet après-midi, on va même perdre par endroits jusqu'à 10 degrés. On passera par exemple à Paris de 25 à 16, une chute des températures qui est surtout pour la moitié nord. Mais elle est normale, hein. On va revenir simplement à des valeurs de saison. Pour la moitié sud, ça va rester estival, 19 à 25 degrés. Encore beaucoup de ciel bleu et de soleil pour tout le monde, ça c'est la bonne nouvelle. Ça va se gâter en revanche en fin de journée sur les Pyrénées avec un risque d'orage. Et puis on a ce vent de nord-est bien présent. Et bien c'est lui, Christophe, qui rafraîchit l'atmosphère.
On fera un point encore plus complet pour ce grand week-end de Pâques avec vous juste avant 13h, Céline Dacosta. La question du jour sur RTL après les déclarations de Jean-Luc Mélenchon hier soir dans RTL Soir et son appel au boycott. N'y allez pas! L'équipe de France de football doit-elle boycotter justement la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Vous dites oui à 61% et non à 28% pour l'instant dans ce sondage express. On attend donc vos appels au 3210 en compagnie de Pascal Praud. Bonjour Pascal.
Bonjour, c'est la phrase de Jean-Luc Mélenchon hier qu'il a dite sur RTL. Un Français n'a rien à foutre, pardonnez-moi, c'est lui qui le dit là-bas. Oui les gars, je vous dis de ne pas y aller. C'est la vieille question de morale et sport. On pourra en parler, bien évidemment. L'autre sujet du jour, c'est les assistantes maternelles. Qu'allez-vous faire? Est-ce que le travail est encore possible? Vous pouvez également réagir à ce sondage au Doxa. 7 Français sur 10 approuvent les mesures annoncées par Emmanuel Macron et vous. Et puis l'ex-star du disco, Patrick Juvet, est mort. C'est notre génération, ouais. Christophe, on pourra lui rendre hommage et écouter ses chansons.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Week-end de Pâques, week-end de semi-liberté et des déplacements autorisés entre régions jusqu'à lundi soir. Et visiblement, beaucoup cette fois ont bien compris le message. Vous êtes, pour RTL, sur la plage centrale d'Arcachon qui commence à se remplir, Philippe de Maria.
Oui, parce qu'il fait tout simplement beau, grand soleil, mer calme, sable blond et que eh bien, tout ça ne sera plus accessible dès lundi quand on ne vit pas ici. Et c'est le cas de Dany qui est en train, juste à côté de moi, de tremper ses pieds, mais alors pas plus.
Mais je ne m'y hasarderai pas parce qu'elle est très froide, cher monsieur.
Mais bon, c'est beau, c'est beau, c'est beau.
Je viens de Dordogne, de Sarlat. Voilà, et comme on a vu qu'il allait avoir le confinement, on s'est dit, allez, on file 2 jours avant d'être enfermé à la campagne dans une grande maison avec une piscine. Bon, mais bien.
Mais vous vouliez voir la mer une dernière fois?
Ah, moi, c'est mon dada. Si j'avais eu plein de fric, ben, je me serais acheté une belle maison au bord de la mer, là, les pieds dans l'eau, quoi. Je rêve, mais ma foi, ça me satisfait aussi, c'est très bien. Là, on va se commander chez Diego un petit quelque chose. Certainement des huîtres, des moules, voilà, des choses comme ça.
On sent que vous allez bien profiter, Dany.
Ah, tout le temps, moi, je suis très, très épicurienne, hein, très épicurienne. Je profite de tout.
Sur tout le littoral, on attend du monde ce week-end pour profiter, comme Dany, de ses ultimes bains de soleil ou de mer avant confinement.
Ben oui, elle avait bien raison en tout cas. Mais il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir plein de maisons un peu partout finalement pour profiter en France. Philippe Demaria, les pieds dans l'eau en tout cas. Fraîche, hein, bien sûr, du bassin d'Arcachon. Mais attention, hein, tout de même au contrôle pour ce week-end. Rassemblement de plus de 6 personnes interdites. Port du masque obligatoire, mesure barrière de bon sens. Interdiction de boire de l'alcool sur la voie publique, les parcs, les quais bien évidemment. Souvenez-vous, hier nous étions le 1er avril. Et en cette période de restriction de freinage, en Belgique, était annoncé depuis quelques jours un immense concert dans un parc de Bruxelles. La Boom Festival avec de nombreux DJ et également, peut-être, qui sait, la présence de Daft Punk. Ça a marché. C'était un... Bon, vous avez compris, c'était un poisson d'avril. Malheureusement, 2000 personnes sont tout de même rassemblées, malgré l'appel des autorités à ne pas s'y rendre. Et Caroline N, tout s'est terminé dans la confusion.
Des centaines de jeunes se regroupent dans l'après-midi dans le bois, jusqu'à 2000 participants. Une ambiance plutôt bon enfant, mais pas de masque pour la plupart, aucune distanciation sociale. La police est déployée en nombre et demande l'évacuation des lieux à plusieurs reprises. Ça ne prend pas et vers 17h, les policiers chargent à pied, à cheval, aidés de canons à eau. Lisée, Philippine, 20 ans, sont sur les lieux et très partagées face à la dérive devant elles.
Je trouve que c'est quand même bien d'être présent et montrer qu'on n'est pas d'accord. Enfin, la majorité des gens sont là en tant que spectateurs.
Ça fait juste un an qu'on vit plus vraiment et qu'ils réagissent comme ça, super violemment sur nous. Et nous, on a juste envie de vivre et faire encore un peu la fête.
Des heures d'affrontement entre participants et forces de l'ordre, les insultes fusent, des projectiles en tout genre, branches d'arbres, panneaux, bouteilles sont lancées sur les policiers. Les quelques centaines de jeunes encore sur place montent des barricades, allument des feux de joie. L'hélicoptère de la police survole la zone pour les repérer. Le calme revient à 22h, 22 personnes sont arrêtées, 26 policiers et 7 de leurs chevaux ont été blessés.
Caroline N à Bruxelles pour RTL. C'est un sujet d'inquiétude pour nombre de familles en ce moment. Pourra-t-on faire garder ses enfants, on vous le disait, par leur nounou préféré? Les assistantes maternelles sont dans l'attente de la décision de l'État qui hier soir avait annoncé un arrêt de leur activité pour les 3 semaines à venir, avant de faire marche arrière. En tout cas, Jacques Serret.
Oui, Matignon a rétropédalé 3 heures après son annonce pour finalement dire que cette question des nounous était encore en cours d'arbitrage. Ce midi, c'est toujours le cas. Les assistantes maternelles ne sont pas fixées sur leur sort et les parents sont dans le flou. Bref, une fois de plus, l'exécutif n'échappe pas à un nouveau cafouillage. Mais si rien n'est acté, c'est aussi que plusieurs paramètres entrent en compte. L'année dernière, lors du premier confinement, les assistantes maternelles pouvaient travailler et accueillir jusqu'à 6 enfants. Sauf que depuis, Matignon rappelle qu'il y aurait plus de contamination chez les assistantes maternelles que dans les écoles, citant une étude de l'Institut Pasteur. 2 jours après l'allocution du président, Matignon promet que la décision sera prise et annoncée aujourd'hui. Une réunion aura lieu en ce début d'après-midi. Mais même dans les couloirs de l'Élysée, ce manque d'anticipation et ces nouvelles tergiversations matignonesques agacent. Il faut veiller, peste un proche du chef de l'État, au bon sens et au pragmatisme. Toujours.
Merci Jacques Serret. En cette période délicate justement du troisième confinement, c'est un nouveau casse-tête, on a bien compris, qui perturbe toute l'organisation des familles. Simon est ingénieur de profession, il a 2 petites filles qui passent leur temps chez une assistante maternelle à Oulins, tout près de Lyon.
On ne va pas savoir trop comment on va faire, on est en train de totalement se réorganiser, on n'a pas la chance d'avoir les grands-parents à proximité, donc on est en train d'aménager nos emplois du temps professionnel dans la mesure du possible. On a une fille qui a 7 ans et la deuxième qui vient d'avoir ses 4 ans. Donc on peut pas du tout les laisser en autonomie toute la journée. Enfin, elles ont vraiment besoin d'une présence à côté. On n'a qu'une semaine à gérer, après ce sera les vacances scolaires, donc on avait déjà un petit peu anticipé. Donc, et puis il y a un jour férié dedans, donc on va faire le dos rond.
Faire le dos rond, Simon avec Bertrand Frachon, RTL Lyon. On rappelle, une semaine de cours à la maison dès mardi prochain pour les élèves de toutes les zones. Et puis les vacances de printemps se déroulent, elles, vous le savez bien, vous l'avez marqué, j'espère maintenant sur votre agenda, du 12 au 26 avril pour les 3 zones. Pour aller plus loin, RTL Midi, on va recevoir sans plus tarder Véronique Delettre, qui est secrétaire nationale Force ouvrière pour le secteur des emplois et de la famille. Bonjour à vous, madame.
Bonjour, monsieur.
On entend, il y a un petit peu d'agacement, certains veulent faire le dos rond, c'est pas simple, parce qu'en quelques heures, on vous dit que vos enfants ne pourront pas être gardés, et puis d'un autre côté, on se dit que finalement, on discute encore.
Eh oui, mais le cafouillage ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On peut dire que pour les assistantes maternelles, elles datent depuis plus d'un an. Donc à un moment donné, eh bien, il va falloir prendre ses responsabilités. On ne peut pas faire fi de l'Institut Pasteur, hein, de ce qui vient d'être produit. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Et notre devoir à nous en tant que syndicat, c'est aussi de protéger la santé des assistantes maternelles pour justement un meilleur accueil dans l'avenir.
Les assistantes maternelles, comme les nounous, n'ont pas obligation de porter le masque, c'est bien cela ?
Alors, les assistantes maternelles n'ont pas obligation de porter le masque quand elles travaillent chez elles. Elles ont l'obligation de le porter quand elles travaillent dans une maison d'assistantes maternelles.
D'accord, au moins c'est clair. Il y a un peu d'agacement quand même de voir qu'on est toujours en train de faire un peu de rétropédalage, comme ça, de prendre des décisions un peu au doigt mouillé, comme disent les marins.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que cet après-midi, donc à 14h45, nous avons cette vision avec le ministre Adrien Taquet. Et j'espère que cette fois-ci, les réponses à nos questions vont être données et que les décisions, les bonnes décisions seront prises définitivement.
Mais la bonne décision, c'est quoi? C'est de laisser travailler les nounous, les assistantes maternelles, comme on les appelle?
Non, oui, on les appelle plutôt les assistantes maternelles.
Je sais bien.
Nounous, c'est l'ancien temps.
Mais je l'aimais beaucoup, cet ancien temps, madame.
Voilà, alors... Mais oui, mais je sais, un peu de nostalgie, ça fait pas de mal.
C'est tellement
d'avant. Voilà, alors doit-on laisser travailler les assistantes maternelles? Moi, j'ai envie de dire, doit-on les laisser prendre des risques? Parce que c'est là aussi qu'est la question. Voilà, donc après, nous allons avoir une intersyndicale avant la visio avec Adrien Taquet. On prendra notre décision également si on doit laisser le libre choix aux assistantes maternelles. Mais de toute façon, si elles ne travaillent pas, nous demandons qu'elles soient payées à 100%.
Oui, ça c'est l'autre
et
aspect, évidemment.
C'est ça aussi qui fera la différence.
Bien sûr, être payé à 100%.
Bien sûr, elles ont peur aussi.
On peut comprendre. La peur, justement, la crainte.
Voilà.
Le lieu de contamination le plus fréquent chez les petits-enfants, par exemple, dans ce domaine, c'est quoi? C'est plus la maison, c'est l'école?
Mais écoutez, il y a quand même quelques mois, on nous disait « n'ayez pas peur, les petits-enfants ne sont pas contaminants ». Après, c'était le contraire. Après, on était reparti, on savait plus finalement. Donc aujourd'hui, on voit, moi ça fait 15 jours que là, j'ai énormément de messages d'assistantes maternelles où il y a une recrudescence chez elles sur les cas contacts et les cas de Covid dans leur propre famille. Donc ça veut dire que oui, il y a danger pour les assistantes maternelles.
Il y a danger, bien sûr. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes suivi quand même par toute la profession pour obtenir, j'allais dire, gain de cause dans cet entretien avec Adrien Taquet, le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. On va y arriver à trouver une solution?
On va arriver à trouver une solution. Alors forcément, les assistantes maternelles sont partagées et on peut le comprendre parce que il y a celles qui veulent continuer de travailler, celles qui ont peur, qui veulent arrêter. Il faut qu'on trouve quelque chose qui rassure tout le monde.
Rassurer tout le monde, c'est une mission compliquée en ce moment. On le sait bien dans cette période ô combien troublée. Merci mille fois, Véronique Delette, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans RTL Midi.
Je rappelle
que vous êtes secrétaire nationale Force ouvrière pour le secteur des emplois et de la famille. Et dans cette grande période de grande surveillance sanitaire, important justement de voir avec vous ce midi, Odile Pouget, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste santé d'RTL, ce qu'il en est des chiffres, justement, pour mieux comprendre les toutes dernières mesures prises par le gouvernement. Et sur une semaine complète, c'était la semaine dernière, c'est bien ça, je suis clair?
Oui, absolument. Les chiffres portent sur la semaine du 22 au 28 mars, avec, selon Santé publique France, une dégradation de tous les indicateurs, les nouvelles contaminations, les hospitalisations, les réanimations, et cela sur l'ensemble du territoire. 37 000 nouveaux cas par jour en moyenne. C'est 22% de plus que la semaine précédente. Alors l'Île-de-France, les Hauts-de-France et PACA demeurent les régions les plus touchées, mais aujourd'hui quand même, les trois quarts des départements ont dépassé le seuil d'alerte qui est de 250 cas positifs pour 100 000 habitants. Toutes les classes d'âge sont concernées, avec une progression à noter plus importante, plus 30% chez les 0-14 ans. Mais là aussi, c'est parce qu'on dépiste beaucoup plus, évidemment, avec les campagnes organisées dans les écoles. Et puis, chez les plus de 75 ans dans la population générale, avec une inquiétude, car après une amélioration constatée début février pour cette classe d'âge fragile, plus susceptible de développer des formes graves, eh bien, les indicateurs repartent à la hausse. Passage aux urgences, hospitalisation, explication des épidémiologistes, une dynamique très forte de l'épidémie, et puis à la différence des résidents des EHPAD, dont 93% ont reçu une première dose, et bien cette population, elle n'est vaccinée qu'à 60% et donc évidemment pas complètement protégée.
Oui, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'il faut faire n'importe quoi non plus.
Il faut respecter les gestes barrières et le masque et tout.
Merci beaucoup Odile Pouget. Oui, mais c'est toujours bon de le rappeler, bien sûr, lavage de mains et le respect de ces gestes barrières, cette distance de sécurité, on va le dire comme cela. Odile Pouget, Service Santé d'RTL. Et justement, à l'instant, le Conseil d'État maintient les restrictions de déplacement pour les personnes vaccinées. L'injection contre la Covid-19 n'élimine pas complètement le risque de contamination. Plus de 50 000 personnes ont été vaccinées hier et la cadence ne va pas ralentir pendant ce week-end. Une pause et dans un instant, notre question du jour sur RTL. L'équipe de France de football doit-elle boycotter la Coupe du Monde 2022 au Qatar?
RTL. RTL Midi
avec Christophe Paco.
12h45, faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar? C'est la question du jour sur RTL.fr. Débat relancé hier soir sur RTL, justement, dans RTL Soir, aux côtés de Thomas Soto, par le président de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
C'est une honte ce qui se fait là. 6500 personnes sont mortes sur les chantiers. Moi, je pense qu'un Français n'a rien à foutre là-bas. Alors, vous nous dites de ne pas y aller. Oui, les gars, je vous dis de ne pas y aller parce qu'on ne peut pas jouer au foot sur les cadavres.
Les Bleus, les joueurs vont-ils se priver d'une Coupe du Monde? C'est le débat que vous allez avoir tout à l'heure avec Pascal Praud, 32-10.
C'est assez habile, hein, d'ailleurs, de la part de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'effectivement, d'abord, c'est un débat vieux comme le monde, moral et sport. On se souvient les Jeux Olympiques de 80, la Coupe du Monde en 78. Mais c'est vrai que c'est un débat, ce qui se passe au Qatar. D'abord, c'est un pays qui a pratiqué l'esclavagisme, de manière plus ou moins officielle, où la corruption a existé sur l'attribution de la Coupe du Monde. En tout cas, il y a des forts soupçons. Ou un calendrier très particulier, parce que les matchs vont avoir lieu en décembre. Donc, effectivement, le Qatar en soi, c'est un débat, bien évidemment. Et la manière dont on sont construits les stades, c'est un autre débat. Alors, est-ce qu'il faut appeler au boycott pour cela? Il me semble que c'est mettre une pression sur les joueurs qui n'est pas acceptable. C'est pas à eux, pour le coup, les joueurs de football, de résoudre ce problème-là.
Il y a un vrai débat. Alors justement, c'est intéressant, Pascal, on va retrouver sans plus tarder Émilie Beaujard du service étranger RTL, de faire l'état des lieux dans ce pays qui accueillera, vous l'avez dit, à l'hiver 2022, en décembre, les joueurs du monde entier qualifiés pour cette Coupe du Monde, où déjà, faut-il le rappeler encore une fois, 6500 travailleurs ont perdu la vie lors de la construction des stades, Émilie.
Oui, il s'agit d'une enquête menée par un quotidien anglais. Ces ouvriers, principalement indiens et népalais, seraient morts pour la plupart d'un mélange d'épuisement, d'hyperthermie et de déshydratation. Tout ça pour un salaire de 200 euros par mois. Désastre humain donc, mais aussi écologique. Avec ses 45 degrés, le pays investit dans des climatisations géantes pour ses 12 stades. Sans compter les îles artificielles, la construction de nouvelles villes énergivores et donc le risque de réchauffement, alors même que le Qatar est déjà le pays qui rejette le plus de CO2 dans l'atmosphère par habitant. Sur le plan des droits humains aussi, les ONG tirent la sonnette d'alarme. Il faut des réformes et les appliquer au plus vite, disent-elles. Pour faire pression, certains clubs de football arborent des messages comme « Le football soutient le changement » sur leurs t-shirts. C'est le cas par exemple des Allemands, des Hollandais et des Norvégiens. Pour l'instant, les footballeurs français restent discrets sur la question, alors que, comme vous le disiez, les appels au boycott se multiplient.
Merci à vous, Émilie Beaujard. Vous avez donc tous les éléments du débat. Alors c'est à vous maintenant, appelez-nous au 3210 320.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le monde du spectacle toujours dans la tourmente et dans l'attente d'une éclaircie en France notamment, mais pour l'heure les annulations s'enchaînent. Tôt ce matin on apprenait l'annulation des Eurockéennes, festival de musique bien connu de Belfort qui devait se dérouler du 1er au 4 juillet prochain. Et puis il y a quelques minutes on a appris cette fois l'annulation du festival de la bande dessinée d'Angoulême qui devait se tenir exceptionnellement au mois de juin. Il aura lieu un peu comme d'habitude par rapport à ces dates fin janvier 2022. Franck Bondou est délégué général de ce festival d'Angoulême.
5000 personnes en présentiel avec des distances et théoriquement assises, ça ne correspond pas du tout à notre concept événementiel. Donc là, on a imaginé de faire des villages qui auraient permis une circulation à l'extérieur, mais économiquement et sur un plan purement culturel, l'offre aurait été beaucoup plus réduite, donc beaucoup moins intéressante pour le public. On a une douzaine, voire parfois plus, d'expositions chaque année. On n'aurait pas pu faire circuler normalement le public. Il aurait donc fallu créer des jauges, pas viables économiquement. Donc l'idée d'aller vers une kermesse de la bande dessinée, c'est pas conforme à l'idée qu'on se fait de la manière de valoriser la bande dessinée en tant que forme d'expression artistique.
C'était Franck Bondou, le délégué général du festival de la bande dessinée d'Angoulême, joint tout à l'heure par Monique Younes pour RTL. Et puis une bonne nouvelle, elle est quand même du côté sportif, avec le maintien cette fois du Grand Prix de France moto. Il est maintenu au week-end du 16 mai prochain. Donc 16 mai, le dimanche, il y aura bien un Grand Prix moto sur le circuit du Mans. Des centaines, des milliers même d'agriculteurs hein, en Ile-de-France, comme dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France et alentour, donc ont sorti les tracteurs aujourd'hui pour adresser un avertissement au gouvernement contre une réforme des aides européennes dont la tendance pour le bio les pénaliserait financièrement. Opération escargot un peu partout en France. On a même vu des jets de patates pourries du côté du Havre tout à l'heure. À suivre. Une pause dans un instant. Un vol de moto qui tourne mal dans le Val-d'Oise. Deux personnes ont été tuées hier à Pontoise.
RTL. RTL Midi
avec Christophe Paco.
À Pontoise, dans le Val-d'Oise, hier, deux personnes ont été tuées dans les quartiers et dans le quartier de Marcouville. Après Guillaume Chiez, après un vol de moto.
Oui, un vol commis au sein de la communauté des gens du voyage. Réaction immédiate, la victime du vol, son père âgé de 57 ans et un ami embarquent dans un fourgon. Direction le quartier des Hauts de Marcouville. En début de soirée, il repère la moto volée. Le conducteur du fourgon fonce avec son véhicule, percute le jeune homme de 21 ans derrière le guidon. Il décédera plus tard dans la soirée. Entre-temps, une trentaine d'habitants du quartier se réunit. Une bagarre explose et l'un des trois membres de la communauté des gens du voyage sort une arme à feu. Tire à plusieurs reprises. Un habitant de 35 ans s'écroule. Il est mort. Trois autres sont blessés. Les trois hommes qui ont mené l'expédition se séparent, tentent de prendre la fuite et sont interpellés quelques minutes plus tard par les forces de l'ordre, puis placés en garde à vue.
Guillaume Chiez, service police-justice d'RTL. Les suites de l'affaire Magali Blandin, cette mère de famille de 42 ans tuée par son mari à coups de batte de baseball. La belle-mère de Magali, Monique Guillard, a été mise en examen, vous le savez, le 20 mars dernier pour complicité de meurtre par conjoint. Elle avait été placée en détention provisoire. La chambre d'instruction de Rennes a décidé tout à l'heure de la laisser tout simplement en prison. Le président de la République est lui en Isère. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, il visite notamment une plateforme de repérage de prise en charge. À 12h52, 6 mois après le passage de la tempête Alex qui les a ravagés, la Vésubie et la vallée de la Roya tentent difficilement de se reconstruire. Pour Yvan Mottet, maire de Saint-Martin-de-Vésubie, l'un des villages les plus touchés par la tempête, ce qu'il reste à faire, c'est énorme.
C'est un chantier gigantesque. Je pense qu'il faudra des années et des années pour redonner un visage aux alentours de Saint-Martin. Il y a 100 maisons qui ont disparu, une quarantaine qui sont fragilisées, qui seront ou confortées ou détruites. Après, il y a les routes sur des kilomètres et il faut tout refaire. Et moi, ma hantise, ma peur, ça serait que la métropole et le conseil départemental demain nous disent « Bon, écoutez, il faut qu'on attende maintenant que l'État nous paie parce qu'à force d'avancer de l'argent, c'est des millions et des millions. Hein. » Beaucoup de gens qui étaient partis, qui au début étaient traumatisés, et puis petit à petit reviennent tous, les uns après les autres, en disant « Trouvez-nous du terrain, on veut construire. » Raison de plus d'être optimiste, on l'est, comme le soleil que l'on a à Saint-Martin et le ciel bleu.
Le bel optimisme d'Yvan Mottet, le maire de Saint-Martin-de-Vésubie, au micro de Vincent Serrano pour RTL. L'an dernier, avec les Français confinés à la maison et des approvisionnements perturbés en magasin, les ventes de chocolat à Pâques avaient chuté sérieusement. Après Noël, on le rappelle, c'est quand même la deuxième plus grande vente de l'année pour ce secteur ô combien gourmand. Cette année, les chocolatiers respirent, ils ont pu s'organiser en amont. Patrick Poirier est le président du syndicat du chocolat.
L'année dernière, ça a été un marché qui a été en repli de plus de 25%, puisque on s'est fait bien sûr confiner juste au moment où les produits venaient d'être implantés en magasin. Donc vu le contexte actuel, on a pu implanter jusqu'à 3-4 semaines avant, au cas où, et je pense qu'on a bien fait de s'y préparer, pour pouvoir permettre aux consommateurs d'avoir le choix des produits bien avant Pâques et pas juste quelques jours avant Pâques comme ça se faisait les années précédentes. Les 10 kilomètres vont pouvoir permettre aux consommateurs de faire les chasses aux œufs en extérieur, alors que l'année dernière, c'est vrai qu'on s'était retrouvé pour la période de Pâques confinés. Les chasses aux œufs avec les enfants, c'est un bonheur dont on se souvient. Et je dirais qu'on a vu le contexte actuel, on a besoin de ces petits plaisirs de la vie.
Je cherche partout, moi, les œufs, depuis ce matin, ici, à la rédaction d'RTL. Patrick Poirier avec Armel Lévy, pour RTL, bien sûr.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons en Normandie, saluer l'initiative du CHU de Rouen qui vient d'installer un banc des bébés devant la porte d'entrée de la maternité de la ville. Un petit banc de bébés, un petit banc en bois où les heureux parents sont autorisés à graver, Frédéric Veil, le prénom de leur nouveau-né.
Théo, 24 février, Liam, 12 mars, Alice, Mina, Sacha, tous ces bébés nés ici au CHU de Rouen ont désormais leur prénom gravé sur ce banc qui était autrefois placé dans un coin isolé. Et qui vient donc de changer de place. Mathieu Mouchard est cadre sage-femme à la maternité du CHU.
Le banc, il a changé de place tout récemment sur une demande, on va dire, de nos patients et aussi de certains membres de l'équipe pour avoir un emplacement un peu plus convivial et être en plein soleil, comme vous pouvez le voir. Donc un endroit plus ou moins agréable avec un petit jardin qui a été fait autour. Et donc un banc qui fait un peu écho à ce qui se passe à Paris avec le Pont des Arts, où là, c'est les cadenas qu'on retrouve avec les amoureux. Et là, c'est les prénom avec les dates de naissance de nos bébés.
C'est une dégradation, on va dire, heureuse du mobilier urbain.
Exactement, c'est une dégradation heureuse du mobilier urbain. Et ça fait un petit clin d'œil à l'activité qui se passe dans nos locaux.
L'activité ici, c'est 2700 naissances par an, cela fait 8 par jour. Et si chaque parent décide de graver le nom de son enfant sur ce banc, eh bien il va falloir en commander un deuxième, faute de place.
C'est clair, j'adore ce petit coup de cœur. Frédéric Veil pour RTL. Allez, on retrouve Pascal Praud, avec qui vous allez pouvoir dialoguer juste après 13h, évidemment, au 3210-3210. Pascal, vous avez écouté attentivement le journal, je sais, comme tous les jours, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, finalement ?
On parle parfois de la déconnexion du politique avec la vraie vie, mais songez que ce vendredi matin, donc 36 heures après la prise de parole d'Emmanuel Macron, on ne sait toujours pas si les assistantes maternelles, les nounous, pourront recevoir des enfants ou pas. Donc Matignon a d'abord dit non, Matignon a dit ensuite c'est possible, maintenant Matignon attend, il va avoir une réunion en début d'après-midi, on a envie de dire merci Matignon, et pendant ce temps-là, les parents attendent, les nounous espèrent, les bambins s'impatientent, c'est quand même assez étonnant, disons-le.
Parlons-en, et avec vous,
parlons-en,
monsieur.
Parlons-en, exactement.
Pascal Praud, juste après 13h, les auditeurs ont la parole. 12h57, la carte météo, on va la détailler avec Céline Dacosta. Pour aujourd'hui, on l'a bien compris, c'est le retour du froid, et ça risque de durer.
Oui, on va passer de l'été au printemps, et du printemps à l'hiver pour le début de semaine prochaine, on va en parler dans un instant. Alors aujourd'hui, côté ciel, c'est encore très agréable, soleil bien présent, on aura juste quelques nuages sur les reliefs de l'Est, la Nouvelle-Aquitaine, le Languedoc-Roussillon, et puis un risque d'orage, ça sera pour la fin de journée, sur la partie centrale des Pyrénées. On va aussi bien sentir cette bise de nord-est qui nous apporte cet air froid sur la moitié nord et qui fait chuter le thermomètre. Plus que 12 degrés à Lille cet après-midi contre 19 hier, 13 au Havre, 16 à Paris et Brest. Brest qui a battu des records de chaleur hier à 27 degrés. Même au meilleur de l'été, on a du mal à les atteindre. Jusqu'à 20 tout de même à Tours cet après-midi et 21 à Bourges. Ça va rester chaud pour la moitié sud. 23 degrés à Toulouse, 24 à Nîmes, 25 à Bordeaux et 25 à Montélimar.
Et ce week-end, Céline, on reste couvert ?
Oui, le thermomètre va encore baisser samedi, dimanche. Très très frais le matin, mais deux saisons l'après-midi, 15 à 20 degrés du nord au sud. On aura encore beaucoup de soleil sur l'ensemble de la France avec juste quelques nuages et ça tout le week-end. Près de la Manche et dans le sud-est, là en revanche, on aura un risque d'orage. Et puis l'hiver, on le verra revenir dès lundi avec des averses qui vont traverser la France du nord au sud, des giboulées avec parfois du grésil. Des températures qui vont encore baisser mardi, 8 à 12 degrés au meilleur de la journée.
Mais sérieux, sérieux, comme disait Jones, c'est sérieux. Céline, il va neiger mardi sur la moitié nord.
Ben oui, on attend un épisode neigeux. Alors ça devrait surtout avoir lieu dans la nuit de lundi à mardi. On pourrait se réveiller mardi avec un sol blanc. Je vous l'ai dit, Christophe, on va passer en quelques jours de l'été à l'hiver.
Merci à vous, Céline Dacosta. Dans un instant, il sera 13h. Le rappel des titres de l'information du jour de ce vendredi 2 avril. Puis Pascal Praud avec vous, 3210, 3210.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Est-ce que les assistantes maternelles auront le droit de recevoir les enfants la semaine prochaine ? Nous sommes avec Nathalie, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes vous-même assistante maternelle, vous êtes dans l'expectative.
Je suis la nounou de Grenoble qui attend la décision des neuneux de Matignon.
Écoutez, ça, c'est une punchline. À tout de suite, Nathalie.
Oui, c'est un sujet d'inquiétude, c'est vrai, pour un nombre de familles. Pourra-t-on faire garder ses enfants pendant les trois semaines qui arrivent ? Les assistantes maternelles sont dans l'attente de cette décision de l'État qui, hier soir, avait annoncé un arrêt de leur activité pour donc trois semaines consécutives avant de rétro-pédaler. Décision dans l'après-midi, nouvelle réunion à ce sujet à partir de 14h au plus haut sommet de l'État. Week-end de Pâques, week-end de semi-liberté, des déplacements autorisés entre les régions jusqu'à lundi soir. Mais attention tout de même au contrôle habituel avec ce troisième confinement. Rassemblement de plus de 6 personnes interdites, port du masque obligatoire, interdiction de boire de l'alcool sur la voie publique. Les parcs, bien sûr, comme les quais. Le monde du spectacle, toujours dans la tourmente. Annulation en pagaille après les Eurocéennes. Ce matin, on vient de l'apprendre, le festival de la BD d'Angoulême annulé cet été. Il aura lieu, logiquement, fin janvier 2022. En revanche, en sport, le maintien du Grand Prix de France de moto au Mans, ce sera le 16 mai prochain. Et puis attention, quelques opérations escargots sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France et un peu partout dans les grands axes, avec des agriculteurs qui se plaignent des aides européennes accordées par le gouvernement qui a trop une tendance verte, vous savez, cette tendance bio qui les pénalise financièrement. Et puis on le rappelle tout à l'heure, on l'a appris, un vol de moto qui tourne mal dans le Val-d'Oise, deux personnes ont été tuées hier à Pontoise.
Merci Christophe, demain matin vous êtes à l'antenne ?
5h, 7h, dès 4h58, on parlera des petits œufs de Pâques, on recevra Jean-Louis Aubert, très important, qui rêvait d'un autre monde, encore et toujours.
Ça ne nous a pas échappé, vous allez vous coucher alors là.
Pas tout de suite, d'abord je vous écoute.
Pour préparer demain matin. Merci Christophe Parcourt.
Les auditeurs ont la parole.